pour les prochaines quelques dimanches, quand je serai avec vous, nous allons faire un parcours de l'Épître aux Colossiens. Donc, ces dernières fois, j'ai fait des messages sur les thèmes différents. Là, on va carrément dans le livre Colossiens. Aujourd'hui, ce sera Colossiens chapitre 1, le verset 1 à 14. Donc, verset 1 à 12, c'est le message proprement dit, mais on va continuer en visant le repas du Seigneur. On va parler de verset 12 à 14 dans ce contexte-là. C'est tous le même message, mais ça va aboutir dans le repas du Seigneur. Donc, je vais lire Colossiens chapitre 1, verset 1 à 14. Où est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait le lire?
De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés.
Merci. Donc, je ne suis pas exactement certain d'où vient cet homme Épaphras, mais Épaphras est venu d'une autre ville, peut-être Éphèse, peut-être Laodicée, et il a évangélisé cette ville de Colosse. D'accord? Donc, on a cette implantation d'une église à Colosse, et puis Épaphras va cheminer et arriver à Rome, où Paul est en prison, et il va raconter l'implantation de cette église, et donc Paul va prier pour cette nouvelle église qui vient de voir le jour à Colosse. D'accord? Donc, c'est là que nous sommes. Alors, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Donc, je vais faire petit à petit et surligner pas toutes les choses, mais certaines choses. Donc, je voudrais surligner la phrase « par la volonté de Dieu ». OK? Paul est apôtre parce que c'est ce que Dieu veut. OK? Et de là, je voudrais simplement dire que Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a une volonté pour tous ses enfants. Ici, c'était d'être apôtre, OK? Mais moi, je ne connais pas le plan de Dieu pour votre vie. Mais Dieu a un plan et c'est à nous d'entrer dans le plan de Dieu, d'être soumis à la volonté de Dieu pour notre vie. Donc, Paul et Timothée écrit aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. OK? Donc, les frères sont les croyants. Ce sont tous les nés du nouveau qui se trouvent à Colosse, que ce soit les hommes ou les femmes. Ils sont les enfants de Dieu. Alors, il dit qu'ils sont saints et fidèles. Donc, le mot fidèle, c'est le mot croyant. Donc, des fois, on dit fidèle, quelqu'un qui est fidèle, ou en opposition à infidèle. Mais ici, c'est le mot croyant. Ce sont des croyants en Jésus-Christ et ils sont mis à part pour Dieu. Ils sont saints. Ils ne sont pas des gens parfaits, mais ils sont des gens qui appartiennent à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Donc, je me repose un tout petit peu là. Donc, c'est l'équipe de Paul qui prie. Ce n'est pas une prière personnelle à Paul, mais c'est toute son équipe. Nous prions pour vous. C'est l'équipe qui prie pour les frères de Colosse et qui remercie Dieu du fait qu'ils ont cru en Jésus-Christ. OK? Donc, c'est une bonne chose. Quand les gens se convertissent, même s'ils ne viennent pas à notre église, il faut prier pour eux, il faut remercier Dieu que des gens ont cru en Jésus-Christ. Et prier, comme quelqu'un a prié tout à l'heure, que ces gens puissent progresser dans la foi, se faire baptiser, etc., d'après la volonté de Dieu. Alors, comme je viens de dire, c'est une nouvelle église, et on a besoin de prier pour les nouvelles églises. Nous sommes une nouvelle église. Il ne faut pas penser que... Bon, c'est vrai, hein? David, on est là, hein? On a une statue de 40 ans, de 45 ans, mais la réalité, c'est une nouvelle église. On est très jeune dans la foi, notre église, d'accord? Et notre petite église, eh bien, a les antennes. Et ces antennes-là, ces petites églises en devenir, eh bien, il faut prier pour eux aussi, il faut prier pour nous, et il faut prier pour eux. Ça va tout le monde, et c'est un grand besoin. Paul a trouvé important que son équipe prie pour cette nouvelle église, et nous devons voir que c'est important que nous prions pour nos petites antennes et pour nous-mêmes. Pourquoi? OK? Verset 4. Ayant, il prie, il remercie le Seigneur sans cesse. Pourquoi? Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Donc, Épaphras a raconté à Paul et son équipe le travail d'évangélisation à Colosse. Et donc, la suite, c'était l'implantation de cette nouvelle église. Et donc, Épaphras a raconté comment les convertis pratiquent le commandement du Seigneur Jésus. Quel commandement? Aimez-vous les uns les autres. Et non pas simplement aimez-vous les uns les autres pour les chrétiens de Colosse, mais il dit pour tous les saints. Ils ont un amour envers tous les chrétiens. Je ne sais pas exactement comment ça s'exprime, mais ils ont un grand amour pour les autres chrétiens. Comme nous aussi, nous devons avoir un amour, donc la bienfaisance, les uns envers les autres et envers les chrétiens à travers le monde. Verset 5, à cause, donc pourquoi tout ça? À cause de l'espérance qui vous a été réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Donc, on apprend ici et par les prochains quelques versets que c'est Épaphras qui a annoncé l'évangile que les gens de Colosse ont entendu et ils ont cru dans l'évangile. Donc, il dit bien que l'évangile est la parole de la vérité. C'est la seule, c'est l'unique. C'est par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui dit, quand on arrive à la fin du passage, qu'ils ont reçu le pardon, ils ont reçu la vie et ils attendent un héritage céleste. Okay. Verset 6, il est au milieu de vous. Ce n'est pas Jésus, c'est l'Évangile. L'Évangile est au milieu de vous. et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. OK? Donc, Jésus nous a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est ainsi donc que l'évangile est arrivé dans la ville de Colosse. Comme d'ailleurs, il dit que l'évangile est allé partout dans le monde ancien. À travers le monde et à Colosse, l'évangile, il dit, porte du fruit. Quand on annonce l'évangile, c'est pas nous qui portons du fruit, c'est l'évangile qui porte du fruit. Parce que c'est un message spirituel qui donne vie à tous ceux qui croient dans ce message. Et il va en se multipliant, c'est-à-dire de plus en plus de gens croient, au fur et à mesure que de plus en plus de monde entendent. Mais il faut qu'ils entendent. C'est ça la clé. Si les gens n'entendent pas, eh bien, ils ne peuvent pas se convertir. Et donc, l'évangile ne porte pas de fruits. OK? Le mandat du Seigneur Jésus est toujours en force. Allez, par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il faut qu'on continue. De près, on a chanté. Partout et par loin et tout près. Hein? C'est ça que Dieu veut. Alors, moi, je voudrais, j'exprime une petite pensée personnelle, d'accord? Mais je suis reconnaissant que le Seigneur Jésus donc, a amené parmi nous quelques personnes qui aiment partager l'Évangile. OK? Et moi, je vous encourage, les frères et sœurs, d'en profiter de cette, comment dire, présence avec nous, la possibilité de s'engager même comme partenaire silencieux dans l'évangélisation. Mais en plus de ça, de prendre l'opportunité de s'entraîner, de se former, d'être prêt. Parce que le moment viendra que vous allez dire, « Ah, tiens, je vais parler de Jésus. » Et puisque vous êtes prêt, vous allez le faire. Mais si vous n'êtes pas prêt, vous n'allez pas le faire. Et je ne dis pas que vous aurez toujours l'opportunité de faire toute la présentation. Hier, il y avait une petite dame âgée qui était devant, elle regardait les panneaux, et elle s'est arrêtée là, et j'ai demandé quelque chose, et puis elle commençait à parler avec moi, et puis j'ai pu parler de Jésus avec elle. Juste une toute petite chose, et elle dit, « Ah, mais oui, Jésus a tout payé, je viens à l'église catholique. » Tous les jours pour demander pardon pour mes péchés. Et j'ai dit, bah, vous savez, Jésus a déjà fini de payer pour vos péchés. Il ne faut plus demander pardon, il faut remercier le Seigneur pour avoir pardonné vos péchés. Hein? Donc, ce n'était pas tout le plan, d'accord? Mais c'était un encouragement à cette âme. Elle est partie toute heureuse. Oh, merci de m'avoir expliqué ça. Hein? Bah, tant mieux. Hein? Bon, Dieu va agir dans sa vie. On compte sur Dieu pour toutes ces choses. Hein? On donne un petit peu ici, un petit peu là. Il y a des gens qui s'arrêtaient, deux personnes cette semaine sont arrêtées pour lire le panneau. Ah, c'est le même que le numéro 11 là, dans la fenêtre et sur le mur, qui dit le message de la Bible. Les gens s'informent. Eh bien, tôt ou tard, ils vont avoir des questions et nous allons pouvoir les amener à Jésus. Donc voilà, j'ai fait une petite illustration, vous allez savoir tous mes talents artistiques. C'est le fraisier. Alors, juste pour être sûr, j'ai regardé ça sur Internet ce matin pour vérifier que je ne disais pas des bêtises. Donc, vous commencez avec un fraisier, OK? Et le fraisier va envoyer les gourmands. Il y a un mot spécial pour les fraisiers, mais bon, c'est les gourmands. Et il les envoie. Au mois de juin et juillet, ils envoient entre 10 et 12 gourmands, OK? Et le gourmand va s'emplanter là et tout de suite quand il touche la terre, il va commencer à pousser des racines. Et par la suite, cette nouvelle plante, il va s'enraciner, il va se fortifier, il va porter des fruits, il va ensuite envoyer le gourmand. 10 à 12 au mois de juin-juillet. Et c'est pareil pour l'autre, et puis par l'autre, etc. Et ce que j'ai appris, il faut couper les liens. Hein? Donc nous devons évangéliser ici. Nous devons nous fortifier, produire les fruits, se fortifier, et puis envoyer pour que l'évangile aille plus loin. Mais à un certain moment, il faut couper les liens. Hein? Souvent, quand on a parlé de l'Afrique tout à l'heure, souvent les pasteurs, ils ne veulent pas perdre l'autorité. Donc, ils veulent garder les liens à toutes les petites églises qu'ils ont démarrées. Ils vont chacun avoir son petit royaume. Mais non, ce n'est pas le plan de Dieu. Il faut couper. Comme avec les fraisiers, il faut couper les gourmands. Une fois que c'est implanté, il y a des racines établies, il faut couper le lien. Hein? Et c'est comme ça que ça marche. Donc, nous voulons être une église fraisier. N'est-ce pas? Alors, si vous croyez que c'est bien, vous pouvez acheter mon tableau. Au verset 7. Donc, je recommence. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Donc, on voit ici que Épaphras a évangélisé. Par la suite, il a fait, donc, en évangélisant les disciples, il les a baptisés. Pourquoi je sais qu'ils ont baptisé? Parce qu'ils ont une église locale. D'accord? Donc, c'est les croyants baptisés qui forment l'église locale. Il les a fortifiés en les en prenant tout ce que Jésus nous a prescrit, n'est-ce pas? Dans Matthieu 28, verset 20. Et il les envoie. Maintenant, il est parti pour aller ailleurs comme missionnaire de son église qu'il a établie et ils vont faire encore plus de choses. Question, c'est nous. Est-ce que nous sommes fidèles? Et Epaphras était fidèle, fidèle ministre. Et est-ce que nous, moi et vous, est-ce que nous sommes des fidèles ministres de l'Évangile? Aussi, on voit dans l'enseignement d'Épaphras, combien il est important d'être enraciné dans la parole. La foi ne vient pas de n'importe où. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, Épaphras les a fondés dans la parole de Dieu, et il les a appris de marcher en concert, en coopération avec ou par le Saint-Esprit et de mettre en pratique l'amour de Dieu. C'était bien. Je ne sais pas combien de temps il a passé à Colosse, mais les points principaux, il les a établis. Et puis, il est parti pour faire autre chose. Et maintenant, on entre dans la prière proprement dit. Je vais lire de 9 à 12, 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour que nous, chapitre 1, verset 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Donc, Paul dit qu'il prie qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Mais être rempli en sagesse et en intelligence spirituelle pour avoir cette connaissance de la volonté de Dieu. Alors, il faut savoir que dans le, bon, c'est un principe dans le monde, mais dans les choses spirituelles, c'est pareil. Chaque pas est important. Dieu ne va pas vous donner tout un travail si vous n'avez pas fait les premiers pas nécessaires pour vous préparer pour ce travail. Il y a un dicton qui dit quelque chose comme un voyage de 1000 kilomètres commence avec le premier pas. Ben, ceux qui ne font pas le premier pas, même s'ils doivent arriver au bout du voyage, ils ne vont pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas commencé. Okay? Et c'est comme ça dans les choses. Aussitôt qu'on a connaissance de la volonté de Dieu pour faire le premier pas, fais le premier pas. Après, il vous dira le second pas. Après, il vous dira le troisième. Et après un certain moment, vous allez vous trouver au bout du chemin. Mais il faut, autant que vous connaissez la volonté de Dieu, il faut le mettre en pratique. Et donc, il a dit que cela permet, donc cherchant la volonté de Dieu, à marcher digne de Dieu. On apprend dans la parole de Dieu la volonté de Dieu sur ce thème-là. Comment marcher digne de Dieu. Aussi, à être dans le quotidien agréable à Dieu. Et il dit pleinement agréable. Et c'est ça qu'on veut, non? On ne veut pas plaire à Dieu? Bien sûr. Hein? Ce n'est pas parce qu'on a peur de Dieu. Ce serait dommage de faire les choses parce qu'on a peur de Dieu. Parce que Dieu, il n'a rien à... Il va pas nous condamner. Hein? Romains chapitre 8 et verset 1. Mais il veut qu'on fasse sa volonté et il dit sa volonté et il veut qu'on agisse aujourd'hui et maintenant selon cette volonté. Okay? Aussi, connaître la volonté de Dieu, être rempli de sagesse et intelligence spirituelle pour connaître la volonté de Dieu, permettre à porter des fruits dans toutes sortes. Donc, il dit « bonnes œuvres » ou dans la lecture, c'était l'œuvre des œuvres bien ou quelque chose comme ça. C'est le bienfaisance. OK? C'est le mot en grec, c'est le bien, c'est ce qui est bon, ce qui est bien. Et puis, à agir. C'est le mot « agir », les œuvres. OK? C'est bienfaisance. OK? Ce n'est pas les pratiques qu'on a dit catholiques, faire les bonnes œuvres. Non, c'est toutes sortes de bonnes ou... qu'est-ce que c'est le mot que j'ai dit? De bienfaisance, ok? De bonnes actions. Et aussi de croître, en plus encore, dans la connaissance de Dieu. Parce qu'on n'a jamais fini de connaître Dieu. Parce que Dieu est tellement au-delà de nous que c'est... Il y a toujours de quoi apprendre concernant la connaissance de Dieu. Et puis tout ceci est grâce à l'œuvre du Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, on y parle de la puissance glorieuse. Hein? C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de servir Dieu par sa force puissante. Donc, dans le grec, c'est super complexe et toutes les traductions sont un peu différentes parce que c'est une phrase qui est très difficile à traduire. Mais ça veut dire que Dieu est tout puissant et il est en nous par son Saint-Esprit. Et comme dans Actes chapitre 1, verset 8, Dieu a mis en nous une puissance, le Saint-Esprit, qui œuvre en nous pour nous faire croire. Faire des vacances? Non. Évangéliser. Et puis c'est intéressant, à la fin de cette phrase, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, parce que vous savez bien que les Colossiens allaient être persécutés bientôt. OK? Quoi qu'arrive, eh bien, ils puissent avoir la joie de Dieu en eux pour être patients et persévérants en dépit des circonstances qui allaient les tomber dessous. OK? Donc, rapido, je donne quelques pensées en résumé. On a parlé de la parole de Dieu, la vérité. On a parlé de la volonté de Dieu, notre raison d'être. On a parlé de la connaissance de Dieu, dont ça concerne nos pensées. On a parlé de l'amour de Dieu, qui est la pratique du christianisme. On a parlé de la puissance de Dieu, qui est l'énergie qui nous donne pour faire sa volonté. On a parlé de la, du partage de l'évangile. On a parlé de la prière, n'est-ce pas? Et on a parlé des fruits en bienfaisance. Et tôt ou tard, dans les conversions à Jésus-Christ. Donc, par la suite, et pour terminer, ça ne va pas par longtemps, mais quelques minutes de plus, on va parler du repas du Seigneur dans les versets 12 à 14. Où nous lisons, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Alors moi, je l'ai attaché à la prière, et dans l'édition que j'ai là, ils ont coupé, et ils mettent avec le suite, ok? Mais c'est dans la prière. Il dit que les Colossiens devraient rendre grâce à Dieu de les avoir rendus capables d'aller au ciel. Donc, ça fait partie de la prière, vous voyez? Et pour nous aussi. Voilà. Donc, faut qu'on comprenne bien que tout ce qui est dit ici est précédé par la grâce de Dieu dans l'Évangile. OK? Donc, du fait que Dieu a fait l'Évangile, la mort et la résurrection de Christ, le moyen pour lequel on peut être sauvé, eh bien, il dit que nous devons en rendre grâce, remercier le Seigneur. OK? Et le mot ici, vous allez être choqués, mais c'est le mot Eucharistie. C'est un mot très catholique. Et quand vous lisez dans les textes catholiques et tout ça, ça veut dire rendre grâce. On n'est pas surpris. Hein? Mais ce mot ne veut pas dire, ce n'est pas un sacrifice. Okay? Eucharistie n'est pas un sacrifice. Mais l'Eucharistie est une reconnaissance, un remerciement. L'Eucharistie n'est pas un morceau de pain, mais une attitude de remerciement. L'Eucharistie n'est pas un corps humain qui reste 15 minutes à l'intérieur de la personne qui l'a mangé, ce qui est l'enseignement qu'on prétende, n'est-ce pas? Mais c'est c'est un mémorial ou une commémoration de l'Évangile en attendant que le Seigneur Jésus revienne. C'est ça l'Eucharistie. C'est ça rendre grâce. Par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous a assuré accès au paradis. Amen. Il nous a rendu capables de l'héritage des saints. L'héritage des saints, c'est disponible à tous ceux qui veulent croire. Au début, on avait vu les fidèles et saints. Fidèles parce qu'ils croient en Jésus et saints parce que en croyant en Jésus, ils sont devenus une partie de la famille de Dieu. Et tout cela est de Dieu. Tout le salut est de Dieu. Et nous n'avons rien fait pour acheter notre salut. En 1 Jean, nous lisons, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Moi, j'aime bien ce verset. Je le cite souvent. Si c'est le tout, ça veut dire que c'est absolu, il y a une totalité, c'est 100%. Il nous lave de tout péché. Il n'y a rien qui reste qui n'est pas lavé. Heureusement, parce qu'il a oublié quelques péchés, ça sera tout gâché, parce qu'un seul péché nous empêche d'aller au ciel. Mais Jésus a tout lavé. OK? Éphésiens 2, 8 et 9, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas, de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tout est de Dieu. Donc, place pour être content, pour remercier Dieu pour le salut qu'il nous a prévu quand Jésus est mort sur la croix. Il a donné son corps, il a versé son sang. Et puis, il y a cette phrase-là, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça me rappelle de Matthieu chapitre 16, verset 18, où Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Et donc ça montre bien qu'il y a le royaume des ténèbres, qu'il y a les portes qui sont fermées pour garder les victimes, les captifs à l'intérieur. Et tout le monde est né dans cette planète à l'intérieur du royaume des ténèbres. Mais quand on avance avec l'évangile vers le royaume des ténèbres, eh bien, les portes ne peuvent pas empêcher l'évangile d'entrer. Pouf, les portes ouvrent et les gens qui veulent entendre, entendent. Et peuvent être sauvés par l'évangile. Tous ceux qui veulent peuvent sortir. Et donc, premièrement, il dit que par l'évangile, les captifs ou les victimes sont libérés. Libérés, c'est le mot libéré, délivré, sauvé. OK? Ça, c'est un côté. Ils n'ont plus rien à voir avec ce côté-là. Mais en plus, il dit que les croyants sont transportés. Donc, ce mot-là, c'est déplacé. Dieu nous a pris littéralement du royaume du diable et mis dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça, c'est formidable. On n'est plus là. Et donc, il y a plein de versets qui parlent de ce sujet, qu'on est passé de la mort à la vie. De ce genre de versets. Parce qu'on n'est plus dans les ténèbres, on n'est plus lié par ces choses-là. Il y a une phrase que je n'ai pas relevée tout à l'heure, donc j'y reviens. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dans la lumière. Étant enfant de Dieu, vous n'avez plus aucun intérêt à vivre dans les ténèbres. C'est dommage quand un chrétien vit pour le diable. Je le dis un peu large comme ça. Mais c'est comme ça. Hein? Pourquoi un chrétien veut vivre dans les ténèbres? Puisqu'il veut qu'on soit dans la lumière. Il a dit déjà, l'héritage des saints dans la lumière. Et Jean, il part plus tard, marcher dans la lumière. Jésus est la lumière. Il y a plein de versets qui parlent de cette nouvelle vie en Jésus-Christ que nous avons dès le moment qu'on a cru à l'Évangile. Et donc, quand vous participez dans le repas du Seigneur, ce que nous allons partager sans tarder, eh bien, vous rendez grâce à Dieu pour votre salut. C'est ça. Vous rendez grâce à Dieu. Merci Seigneur pour cela. C'est un mémorial, c'est une commémoration. C'est dans l'esprit qu'on se souvient de ces choses. Ça ne vous donne rien de mérite de plus. Hein? Dans certaines églises protestantes, on enseigne que ça fait une grâce. On est meilleur chrétien parce qu'on a participé dans le repas du Seigneur. Mais non, c'est que une coupe et des petits morceaux de pain, pas plus. Pour qu'on se souvienne du corps de Jésus qui a tellement souffert et le fait qu'il était bien mort et son sang a coulé. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen.